Vous êtes sur RTL.
D'accord.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Paul Hermelin, le président du conseil d'administration de Capgemini.
Bonjour Paul Hermelin.
Bonjour Alba.
Vous êtes effectivement l'un des dirigeants de Capgemini. Capgemini, c'est l'un des géants du numérique. C'est 40 000 personnes en France, 270 000 dans le monde. Vous publiez donc La science en procès aux éditions de l'Observatoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce plaidoyer pour la science, l'innovation, la technologie? C'est quoi? C'est l'actualité, le Covid, les vaccins, les anti-vaccins?
C'est devenu un poncif de dire que le digital est un des gros vainqueurs de la période. Avec, on était confinés au printemps 2020. Je passais le flambeau à un nouveau directeur général après avoir dirigé le groupe pendant 18 ans. Et moi, ma vie, c'est la technologie. Donc j'ai réfléchi à ça. Et effectivement, la polémique commençait à monter sur... Est-ce qu'on ferait un vaccin? Est-ce que les gens étaient anti-vax? Et j'étais frappé parce que c'était la France qui était où il y avait la plus forte proportion d'anti-vax. Donc je me suis dit, pourquoi? J'ai commencé à creuser le sujet.
Mais pardon, on ne s'attendait pas à autre chose de votre part. On se doutait bien qu'un des grands patrons du numérique n'allait pas clouer au pilori son outil de travail.
Certes, mais d'abord, je le rappelle dans la préface, j'ai été dans ma vie, dans ma plus jeune, j'ai été directeur de cabinet d'un ministre de la Recherche assez prestigieux. C'était un très grand scientifique, Hubert Curien, puisqu'après avoir quitté le ministère, il est devenu président de l'Académie des sciences. Donc vous voyez bien, donc j'avais beaucoup travaillé ces sujets de sciences et à l'époque, la nouvelle frontière, c'était le génome humain. Si vous vous rappelez, dans les années 90, c'est-à-dire la décomposition... de l'ADN pour essayer de comprendre le génome. Tout ça est devenu maintenant presque banal. Chacun se fait faire son ADN, d'où vient son sang, d'où on vient, quelle part d'Européen, quelle part d'Indo-Européen. Tout ça est devenu très banal. La science est derrière nous partout, pas seulement dans l'informatique.
Ce qui vous frappe, et ce que vous dites dans votre livre, c'est que nous, les Français, nous sommes particulièrement sceptiques.
Mais écoutez,
on doute, on est méfiant.
Alors, le doute a toujours existé. Le mythe du golem, l'homme fabriqué dangereux, quelque part Frankenstein, le docteur Folamour, c'est un vieux poncif. Mais en France, je pense qu'on est traumatisé. On est traumatisé du monde moderne. Au fond, quelque part, la France ne se remet pas de certains affaiblissements dans l'Europe et puis de la mondialisation. Et on rejette tout le monde moderne et on rejette la technologie. J'ai quelques idées en termes de remèdes, et notamment je pense que notre système éducatif est plus tourné vers le passé que vers l'avenir. Donc il y a un travail à faire, la place des sciences, et on a fait des mathématiques un outil de sélection, au lieu d'en faire un outil d'émancipation. Au lieu d'utiliser les sciences pour mieux comprendre le monde, on a utilisé les sciences pour classer les enfants et pour les diriger, les orienter. Donc évidemment, c'est effrayant. Et en particulier, les petites filles qui se détournent des sciences vers 8-10 ans, hein, c'est très tôt.
Et on voit bien dans les écoles d'ingénieurs.
Et on voit dans les écoles d'ingénieurs. En France, on a moins de 20% de jeunes femmes dans les écoles d'ingénieurs, alors que ce sont quand même des emplois. Il y a beaucoup de demandes d'emploi, il y a des rémunérations attrayantes. Donc il y a un traumatisme devant les sciences, je pense qu'il faut se poser la question.
Qu'est-ce que vous feriez, vous, d'ailleurs?
Écoutez, moi, il me semble d'abord...
S'il fallait changer quelque chose là, dans l'éducation.
D'abord, je pense qu'on n'y passe pas assez d'heures à la découverte du monde, à la découverte de l'expérience. Moi, j'ai une institutrice qui m'a fait apprendre le volume du cône avec du sable pour comprendre que le volume du cône, c'est un tiers du volume du cylindre dans lequel il est. C'est des choses que j'ai trouvées avec mes mains en manipulant du sable. Il n'y a pas beaucoup professeurs des écoles qui connaissent la méthode expérimentale. 45% des professeurs des écoles disent ne pas être à l'aise avec la méthode expérimentale. Ils peuvent pas l'enseigner s'ils sont pas à l'aise.
Paul Hermelin, je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de Capgemini, l'un des leaders mondiaux du numérique. La science, elle a toujours suscité des angoisses et des peurs. Il y a des peurs technologiques. On nous parle d'intelligence artificielle, de robots, même les compteurs Linky font peur. Et puis il y a les peurs environnementales. Sans arrêt, on nous parle du réchauffement climatique et pour cause de la sixième extinction des espèces. En 50 ans, on a perdu 60% des mammifères, des reptiles, des oiseaux. C'est pas une vue de l'esprit.
Non,
c'est normal que la science fasse peur.
Alors, premièrement, nous savons aujourd'hui que le développement économique, on va dire à l'occidental, est en train de mettre en danger l'équilibre de cette planète. Donc il faut d'urgence changer. Quelque part, moi, il m'a frappé, il y a quelques jours, est sorti un rapport de l'ADEME qui avait 4 scénarios pour...
Sur l'énergie.
Et donc, le scénario de la frugalité, qui existe est un scénario de dictature. Parce que pour arriver au scénario de la frugalité, je ne sais pas si vous avez lu...
Donc plus de sobriété.
Oui, mais il serait interdit de posséder une résidence secondaire et une résidence principale, et on serait poussé à vendre celle qu'on n'a pas, parce qu'on ne peut pas avoir des logements vacants, c'est des gouffres à énergie. Il serait interdit, ou près de manger de la viande, on n'aurait plus le droit de voyager en avion, les voyages en train et en voiture seraient limités. Ça existe comme solution de la frugalité.
Mais vous êtes en train de dire que donc l'écologie, c'est une dictature ?
Non, je suis en train de dire qu'il faut faire une technologie environnementale et que l'avenir, c'est une solution avec de la technologie qui soit centrée sur la planète. Et je pense que la planète est fondamentale. Je pense que l'écologie est une obsession pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes, il faut le savoir. Et on doit les convaincre que la technologie est la voie de sauver la planète.
Mais il y a un vrai débat entre le monde de l'entreprise et même le président Macron, et de l'autre côté, les écologistes. Les premiers disant qu'on s'en sortira par la technologie, les autres expliquant que la technologie ne peut pas tout résoudre et qu'il faut changer de modèle.
Alors, je pense que, comme on l'a vu avec les quatre scénarios de l'ADEME, la pure technologie ne fonctionne pas. On va vers un système hybride dans lequel on va devoir changer les comportements. On n'a pas besoin de changer de téléphone portable tous les deux ans. On n'a probablement pas besoin de changer de voiture aussi souvent. On doit faire des voitures recyclables. On doit travailler sur l'économie circulaire. Mais ça peut se faire dans un monde tourné vers le futur et l'avenir et la technologie.
Vous dites dans votre livre que la science et l'innovation, ce sont les piliers de la démocratie.
Mais comme je l'explique, face aux défis de la planète, le choix, ça va être la dictature ou la démocratie. Moi, quand je lis et quand je regarde les vidéos YouTube de pas mal de prophètes écologistes, ils rêvent d'un monde que les gens ne peuvent pas y adhérer. C'est assez, je vais le dire, c'est quasiment terroriste. Donc, si on veut respecter la démocratie, on va devoir combiner des changements de mode de vie et des avancées technologiques dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des consommations et des produits.
Paul Hermelin, quel regard vous portez sur l'élection présidentielle qui approche? Sans doute l'innovation, la technologie seront des sujets de la présidentielle.
Mais il y a plusieurs facteurs importants, mais je dirais, comment allons tourner cette élection pour qu'elle se porte vers l'avenir? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une élection qui regarde le passé. Quand on regarde que les sujets d'immigration et de sécurité, c'est pas avec ça qu'on fera l'emploi de nos enfants et qu'on fera l'avenir de nos enfants. Donc, c'est des sujets de préoccupation, il faut en parler. Mais comment en France peut-on recréer des emplois? Comment peut-on améliorer le système d'éducation? Comment peut-on rééquilibrer les régions?
Et comment, quel regard vous portez sur un candidat comme Éric Zemmour, plutôt nostalgique, moins porté vers le progrès?
Écoutez, d'une part, il surfe, j'allais dire, si j'utilise ce mot anglais, sur une intégration qui va mal. Donc elle pose problème, on le ressent. Moi, vous savez, je suis avignonnais, je vois bien qu'à Avignon, c'est pas facile. Mais j'ai regardé sa vidéo et je trouvais qu'on n'y parlait que du passé. Et je voudrais savoir ce qu'Éric Zemmour propose pour l'avenir. Je suis prêt à l'écouter, mais quand il parle de la France de 2027, parce qu'on est on sera en 2022 et on va préparer les 5 années, qu'est-ce qu'il nous propose pour les 5 années qu'il veut diriger?
Il y a une question qui sera au cœur de la présidentielle, et en tant que grand patron, je vous la pousse, c'est la hausse des salaires. Il faut augmenter les salaires.
Donc, premier point, chez Capgemini, on est confronté à un besoin d'effectifs supplémentaires. On n'a pas assez d'informaticiens. Aujourd'hui, l'offre de talents est trop faible par rapport aux besoins. C'est nous et tous nos concurrents. Donc, les salaires vont progresser un peu plus vite que l'inflation, c'est sûr.
Merci beaucoup, Paul Hermelin. Je rappelle votre livre, La science en procès. C'est aux éditions de l'Observatoire.
Et je retiens ce propos de Paul Hermelin. On a fait des mathématiques un outil de sélection et non un outil d'émancipation. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à